Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct, on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et à 19h20, le grand débat du Club des Idées, consacré ce soir à un sujet douloureux mais nécessaire. On évoquera la libération de la parole des victimes d'inceste. Des milliers de messages sont diffusés depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'est une déferlante sous le hashtag #MeTooInceste. Alors comment combattre ce tabou qui semble encore trop souvent minimisé dans la société? On entendra le témoignage très fort d'une de ces victimes et on en parlera avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe.
Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord?
Oui.
Bah ouais, mais...
Il avait tout le temps l'air en colère, mais il disait qu'il ne faisait pas exprès, lui qui était pourtant un vrai tendre. Jean-Pierre Bacri a succombé à un cancer. Il laisse derrière lui des amoureux du cinéma inconsolables et des films et des répliques cultes.
On va revenir dès le début de ce journal, évidemment, sur sa carrière très riche et on entendra l'hommage de réalisateur Alexandre Arcadi.
Au sommaire également, un premier bilan du premier jour de vaccination pour les plus de 75 ans.
On sera aussi à Moscou où l'opposant Alexei Navalny appelle ses partisans à descendre dans la rue alors qu'un tribunal a ordonné son incarcération.
Et puis quand vous êtes à 3 semaines d'une grande compétition et que vous n'avez pas le droit de sortir de votre chambre d'hôtel. Système D pour les tennismen et women à Melbourne.
Un coup d'œil à la météo avec Anissa. De la douceur pour demain après-midi. Enfin une bonne nouvelle.
Ouais, à part le passage d'une petite perturbation au nord de la Seine, le temps est assez calme hein, quand même demain et ensoleillé sur une grande partie du pays. Les températures, vous le disiez, seront très douces, surtout dans le sud-ouest. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
D'abord donc cette triste nouvelle pour le cinéma français, la disparition de Jean-Pierre Bacri à 69 ans, emporté par un cancer.
Oui, Jean-Pierre Bacri, c'était un visage, c'était une voix, c'était un caractère et une immense carrière, Liane Chenouda.
Oui, c'était l'éternel râleur, mais c'est ce qui faisait son charme. Cet humour pince sans rire, qui nous faisait tant rire, le rendait si attachant et profondément humain. Écoutez sa réaction lorsqu'il reçoit, avec Agnès Jaoui, les 2 Césars du meilleur film et du meilleur scénario pour Le goût des autres. C'était il y a 20 ans.
Je vais pas commencer à sauter comme un fou. Voilà, je suis content, quoi. Je suis content. Il faut quand même relativiser. C'est pas si grave non plus d'avoir un César, parce que le lendemain, on a quand même mal aux dents. Il faut quand même travailler. Il faut quand même se disputer avec des gens qui vous font chier. Il faut aimer. Voilà, quoi.
Du Bacri pur jus, indissociable d'Agnès Jaoui avec qui il écrivait et jouait, Jean-Pierre Bacri était irrésistible aussi dans Cuisine et Dépendance, leur premier succès au théâtre, puis au cinéma, et il était hilarant dans Un air de famille.
Vous voulez boire quelque chose?
Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi.
Ah bon? Tu te fais du souci, chérie?
Hein? Non, pas du tout.
Ah, vous buvez quelque chose?
Qu'est-ce que t'as? Tu es fatigué?
Non, arrête, tu me fais peur à chaque fois, là. Avec...
Est-ce que vous buvez quelque chose?
On se souvient aussi de Smoking No Smoking, de On connaît la chanson, pour lequel il avait aussi décroché le César du meilleur scénario et celui du meilleur acteur dans un second rôle. Bacri n'aimait pas qu'on lui colle à la peau ce rôle d'éternel bougon et pourtant on sentait chez lui une mélancolie. Il aimait jouer les anti-héros, les anticonformistes qui ne trichent pas.
Merci. Merci Diane Chenouda, merci pour ce papier, ce portrait.
Et vous le disiez, on avait toujours l'impression que Jean-Pierre Bacri était un peu bougon et c'est ce qui faisait son charme aussi, un bougon bourré d'humour qui faisait hurler de rire ses amis. C'est ce qu'en tout cas ce que veut retenir de lui Alexandre Arcadi, qui l'a fait tourner dans Le Grand Pardon et Le Grand Carnaval.
C'était quelqu'un de très drôle, avec qui on passait des soirées absolument délirantes quand nous tournions en Tunisie Le Grand Carnaval. C'était exceptionnel de drôlerie, ces soirées passées ensemble à raconter des histoires, à imiter. Je me souviens particulièrement d'un moment où il imitait le commentateur de la radio ou de la télévision tunisienne commentant un match de football. C'était hilarant. Et voilà, moi, c'est ces images-là que je garde. Non pas le Jean-Pierre Bougon, le Jean-Pierre un peu en retrait. Non, je garde l'image d'un Jean-Pierre proche, drôle et sur Le Grand Pardon, c'était son premier film. Il était là, il a trouvé immédiatement sa place et puis son talent a fait le reste.
Le réalisateur Alexandre Arcadi, joint pour Europe 1 par Angèle Châtelier.
19h03, dans l'actualité également ce soir, le lancement de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans hors EHPAD.
Et pour les personnes les plus fragiles ou sous traitement médical lourd, 6,5 millions de personnes concernées. Lionel Gougelot a suivi cette campagne aujourd'hui à Lille, dans un centre mis en place par la mairie.
Un petit pansement sur l'épaule, Robert est soulagé de faire partie des premiers vaccinés, mais d'après lui, ça n'a pas été sans mal.
Par le téléphone, c'était incroyable. On a passé des heures au téléphone pour s'inscrire, mais ça n'a jamais marché. Et là, le voisin il m'a dit, tiens, écoute, si tu veux, il y a une inscription à FIV. Là. J'ai dit, ouais, du coup, on est arrivé à FIV, sinon...
8 boxes de vaccination ont été aménagées par la mairie dans cette salle des fêtes municipale. 6 injections par quart d'heure dans un dispositif plutôt bien huilé, assure Akima, l'infirmière.
Oui, ça va très vite. L'aiguille est déjà préparée. On attend le patient, on vérifie tous les antécédents médicaux. On attend l'aval du médecin et ensuite on fait l'injection.
J'ai envie, madame, d'être vaccinée.
En supervisant l'installation du centre, Martine Aubry dénonce le manque de vaccins disponibles. 150 injections ici pour la première journée. On pourrait faire bien plus, estime la maire de Lille. Alors les médecins ont autorisé 6 vaccins par flacon de vaccin.
Les vaccins sont reconstitués avec 1,8 ml de sérum physiologique, ce qui permet potentiellement de réaliser 6 vaccins.
Une injection comme une délivrance pour Francis, 75 ans.
Un peu moins d'appréhension pour cette maladie, et puis je sais que je vais pouvoir côtoyer un peu plus de personnes tout en conservant quand même nos distances. Mais bon, ça soulage un peu.
800 vaccinations sont programmées dans ce centre cette semaine en attendant une montée en puissance des livraisons de vaccins. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on l'entend avec ce reportage à Lille, beaucoup d'interrogations sur les délais de rendez-vous et aussi sur la peur d'une pénurie de vaccins.
Oui, Anne Le Gall, ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il faut être patient, c'est normal, c'est même mathématique.
Effectivement, le nombre de rendez-vous pour se faire vacciner dépend du nombre de doses de vaccins qui seront disponibles au fil de l'eau. Et les 6 millions de Français supplémentaires qui sont désormais invités à se faire vacciner ne pourront donc pas tous recevoir leurs injections dans les jours qui viennent. Car pour le moment, nous n'avons qu'un peu plus d'1,5 million de vaccins en stock. Et les livraisons, elles, se font au rythme de 500 000 doses hebdomadaires. Cela ne fait que 5 000 vaccins livrés en moyenne par semaine par département. Il va donc falloir vivre avec ce principe de réalité de l'arrivée progressive des vaccins, indiquait ce matin le professeur Alain Fischer. Mais selon le ministère de la Santé, 11 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna sont attendues d'ici fin février. Et d'autres vaccins pourraient aussi venir entre-temps compléter le dispositif, notamment celui d'AstraZeneca, dont l'autorisation doit être examinée fin janvier.
Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. L'Europe réfléchit en ce moment à un certificat de vaccination européen proposé par la Grèce. Ce passeport vaccinal suscite les réticences de certains pays face au risque de discrimination envers les personnes qui ne seraient pas vaccinées.
Oui, notez que l'Espagne passe la seconde dans sa campagne de vaccination puisqu'elle a commencé aujourd'hui à administrer les secondes doses du vaccin Pfizer-BioNTech.
Tandis que le Royaume-Uni, lui, s'est fixé comme objectif de vacciner d'ici la mi-février 15 millions de personnes prioritaires.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, la suite du journal dans quelques secondes. Alexei Navalny, incarcéré, appelle les Russes à descendre dans la rue.
Et puis comment s'entraîner au tennis quand on est confiné dans une toute petite chambre d'hôtel ?
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, la suite du journal et on part donc comme promis à Moscou où au lendemain de son retour, l'opposant russe est incarcéré jusqu'au 15 février au moins.
Oui, la sentence a été annoncée à l'issue d'une comparution assez surréaliste. Elena Voloshine, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Moscou. Alexei Navalny appelle les Russes à descendre dans la rue.
Oui, depuis hier, Navalny martèle qu'il n'a pas peur et appelle ses partisans à en faire de même. Depuis le tribunal installé à la hâte, dans un commissariat de police où il a comparu aujourd'hui, il a enregistré cet appel. Écoutez.
Que redoute le plus ce crapaud assis sur son gazoduc? Que redoute le plus ces voleurs assis dans leur bunker? Vous le savez très bien, que les gens descendent dans la rue, alors n'ayez pas peur. Descendez dans les rues, ne descendez pas pour moi, descendez pour vous et pour votre avenir.
Alors comment l'audience qui a conduit à 30 jours de détention provisoire pour l'opposant a-t-elle pu se tenir dans un commissariat? C'était la grande question pour les journalistes refoulés à l'extérieur par moins 20 degrés. Pour l'entourage de Navalny, cela valait les tribunaux extrajudiciaires staliniens avec des vices de procédure en série. À la clé pour Navalny, après cette détention provisoire, une autre audience où sa peine de prison avec sursis pourrait être commuée en prison ferme à la demande de l'administration pénitentiaire qui l'accuse de s'être soustrait à son contrôle judiciaire alors même qu'il était soigné en Allemagne pour un empoisonnement qu'il a dénoncé comme une tentative d'assassinat ratée par les services secrets russes.
Elena Voloshine, correspondante d'Europe 1 à Moscou, et la communauté internationale continue de demander sa libération immédiate. Le centre-ville de Washington a des allures de camp retranché à 48 heures maintenant de la cérémonie d'investiture sous très haute surveillance du président élu, Joe Biden, qui a de nouveau appelé aujourd'hui à l'unification d'un pays divisé.
Des milliers de soldats de la garde nationale, l'armée de réserve américaine ont déjà été déployés. c'est sans précédent.
Oui, ils seront 25 000 jusqu'à 25 000 mercredi dans la capitale pour protéger une large zone allant de la colline du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment mercredi jusqu'à la Maison Blanche.
À 3 semaines du coup d'envoi de l'Open d'Australie de tennis, on parle de sport évidemment, 72 joueurs sont à l'isolement.
Oui, parce qu'ils sont considérés comme cas contact, ce qui veut dire qu'ils n'ont absolument pas le droit de voir qui que ce soit. Un isolement pur et dur, interdiction de sortir et de s'entraîner. Donc, on imagine comme ça doit être frustrant. Corinne Boulot, vous avez pu joindre l'un d'entre eux, cloîtré donc dans sa chambre d'hôtel.
Oui, vous avez l'exemple de ce jeune joueur français de 23 ans, Alexandre Muller, qui a eu la désagréablement surprise d'être considéré comme cas contact. Un passager de son vol Doha-Melbourne ayant été testé positif à son arrivée sur le sol australien. Résultat, Alexandre est confiné dans sa chambre d'hôtel sans pouvoir en sortir. Privé d'entraînement, il a eu recours au système D pour s'entretenir physiquement en soulevant notamment au-dessus de ses épaules un fauteuil de sa chambre.
C'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour pouvoir porter, qui pèse un petit peu lourd pour avoir quelques poids. Mais là, on a eu au moins une bonne nouvelle, c'est que normalement, on va recevoir un vélo. Et puis, j'ai demandé aussi des poids pour pouvoir faire un peu de musculation et pour pouvoir au mieux m'entretenir physiquement.
Et pour la nourriture, eh bien, elle n'est pas vraiment digne pour le moment de sportif de haut niveau. Mais la situation semble un peu évoluer.
Là, je viens de recevoir le dîner. Bon, il y a un peu de blé et un bout de saumon. Donc, c'est pas top. Mais si jamais quelqu'un a encore faim ou si le repas lui plaît vraiment pas, je pense qu'ils l'ont rajouté. On a $100 de budget pour pouvoir commander sur Uber Eats. Et ça sera rajouté sur son prize money à la fin du tournoi.
Les Australiens pris de court par autant de joueuses et joueurs cas contact tentent de corriger le tir au fil des jours. Ils sont 72 bloqués à l'hôtel pendant 14 jours, quand les autres sont, eux, autorisés à sortir 5 heures par jour pour s'entraîner.
Merci beaucoup Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve à partir de 18h demain dans Europe Soir pour les journaux. Un petit coup d'œil à la météo, Anissa. Un temps humide au nord. Moi j'espère à chaque fois que ça évolue hein, d'heure en heure, mais...
Ah oui, non, mais il n'y a pas de magie.
Il
n'y
a pas de magie, oui, d'accord.
Entre 19h et maintenant, oui, je peux pas faire grand-chose. Juste vous annoncer que nous aurons une perturbation qui arrive par la Bretagne demain. D'ailleurs, dès ce soir, hein, vous aurez quelques gouttes sur le Finistère. Et demain matin, c'est sur les côtes de la Manche que les coups de vent seront les plus forts, jusqu'à 90 km/h notamment. Sur la côte d'Opale, de la Normandie à la Lorraine en passant par l'Île-de-France, le ciel est couvert demain et il pleut, couvrez-vous. Sur la moitié sud, après la dissipation des brumes matinales, le soleil s'impose et en fait c'est sur toutes les régions au sud de la Loire qu'il fera très beau demain. Sur le pourtour méditerranéen, attention aux entrées maritimes qui apporteront quelques gouttes sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Et puis attention, si vous nous écoutez dans le centre-est, notamment la région du Val-de-Saône, nous aurons des brouillards et des verglas routiers demain matin. Donc soyez très prudents. Ce qui est notable, c'est surtout la hausse des températures dans le sud-ouest demain après-midi, avec 17 degrés à Pau, 14 pour Biarritz, 16 à Tarbes, 9 à Paris et 4 à Strasbourg, là c'est frais. Et puis le matin, pas mal de gelées matinales en raison de l'absence des nuages, moins 6 à Aurillac, moins 4 à Manosque et Rodez, moins 2 à Lyon et Strasbourg et 5 petits degrés pour Paris.
D'accord, bah merci, tout est noté. Demain, essayez de venir nous voir avec des bonnes nouvelles quand
même.
Bah
je vais faire ce que je peux, mais ce que je peux vous annoncer, c'est qu'à partir de mercredi, on a une grosse dégradation et jusqu'à samedi, il ne va vraiment pas faire beau.
Et bah vous vous débrouillez, vous me changez tout ça hein, d'ici mercredi. Merci.
Bonne soirée.
Ma chère Anissa, on vous retrouve demain à 18h. Alors dans quelques secondes, évidemment, c'est le débat du Club des Idées. On parlera, je vous le disais, de la libération de la parole des victimes d'inceste, un sujet nécessaire. D'abord, la carte blanche du lundi signée ce soir, Philippe Manière.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe Manière.
Bonsoir Julien.
Essayiste, entrepreneur, ancien président de l'Institut Montaigne. Alors ce soir, c'est un coup de griffe que vous donnez contre les entreprises qui ont perdu de leur vivacité, de leur ingéniosité. Vous revenez notamment sur la proposition du Canadien Couche-Tard de racheter Carrefour, à laquelle Bruno Le Maire a opposé donc vendredi son veto.
Oui, alors on a beaucoup parlé de cette affaire la semaine dernière, vous le disiez, sous l'angle de la souveraineté économique. La question c'était, fallait-il ou non s'opposer à cette offre sur ce qui est dans le fond une simple chaîne de supermarchés, au seul motif que Couche-Tard est canadien. Mais c'est sous un autre angle que je voudrais y revenir ce soir. Julien, je pense qu'il faut aussi se poser une autre question. Pourquoi, à l'instar de Carrefour, justement, nos grandes entreprises qui ont longtemps été si conquérantes à l'international, pourquoi sont-elles aujourd'hui plutôt chassées que chasseurs ?
Eh bien, je vous pose la question, est-ce que c'est vrai ?
Bon, alors d'abord, il ne faut pas généraliser. C'est vrai qu'il nous reste heureusement de très belles pépites, bien classées dans leur secteur respectif, parfois même leader mondial. On pense à LVMH, à L'Oréal et autres Michelin. Mais ça n'empêche pas que la liste des mastodontes tricolores tombés au champ d'honneur commence à être un peu longue. Hein. Sans remonter à Péchinet devenu canadien, à Arcelor qui avait été avalé par l'Indien Mittal. Ben, on a vu en quelques années Alcatel tomber dans l'escarcelle du Finlandais Nokia, Lafarge disparaître dans le ventre du Suisse Holcim, après que son concurrent ciment français était devenu italien, lui. Et puis la moitié d'Alstom avait été embarquée, vous vous souvenez, par l'américain General Electric. Et puis la rumeur boursière annonce en permanence de nouvelles opérations de ce type. Alors, elles n'ont pas toujours lieu, hein, on l'a vu avec Carrefour. Mais on ne peut plus nier qu'il y ait aujourd'hui, parmi nos très grandes entreprises, ben oui, plus de proies que de prédateurs. Et c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce qu'avoir des centres de décision sur notre sol, c'est indispensable à la prospérité du pays.
Et alors, question essentielle, pourquoi en est-on arrivé là? Et comment surtout?
En fait, il y a pas mal de raisons, mais il y en a une sur laquelle je voudrais m'arrêter ce soir parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez. C'est la propension assez typique des patrons français à faire ce que l'on appelle en anglais de l'empire building, mot à mot de la construction d'empire, autrement dit, à grossir, à planter des petits drapeaux partout sans se préoccuper suffisamment de ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ça n'est pas la taille, c'est la rentabilité. Alors c'est par exemple cette mauvaise graisse qui a emporté Lafarge, mais aussi en un sens Alcatel.
Oui.
Bon, soyons justes, ce défaut, il était surtout celui des PDG français du tournant du siècle. Leurs successeurs sont aujourd'hui soucieux de s'alléger, de se recentrer, comme on dit. C'est justement ce qui est en train de faire Carrefour. Hein. C'est aussi ce qu'ont enfin commencé à faire Suez ou encore Saint-Gobain sous la houlette de capitaines justement plus modernes. Mais quand on a été glouton pendant trop longtemps, vous savez ce que c'est? Il faut du temps pour retrouver la forme. Et puis en attendant, ben on se traîne, on peut se faire croquer, en tout cas se faire mordre les fesses, y compris par plus petit que soi. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas Carrefour-Couche-Tard. Hein. Le Québécois
c'est
est
vrai.
Deux fois plus petit que le Français, oui, mais il gagne deux fois plus d'argent. Exactement. Donc devinez quoi? Il vaut deux fois plus en bourse et ça le rend assez manœuvrant. Et les affaires, Julien, c'est un peu comme la jungle. Il faut pouvoir courir vite et c'est cela que nos entreprises, trop longtemps fourvoyées dans la course à la taille, vont devoir réapprendre sans tarder.
Eh bien, peut-être ils vous entendent ce soir, ces capitaines d'industrie. Merci, mon cher Philippe. Merci pour cette carte blanche.
Europe 1, Julien Bugier.
19h17, restez avec nous dans quelques secondes. Un témoignage très fort. On parlera de la libération de la parole des victimes d'inceste. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va parler de ce mouvement inédit et nécessaire autour de la libération de la parole concernant les victimes d'inceste. Depuis quelques jours, une vague de témoignages déferle littéralement sur les réseaux sociaux suite à l'affaire Olivier Duhamel sous le hashtag MeToo Inceste, permettant à des milliers de victimes de témoigner, anonymement ou pas. Et ce qu'on y découvre est absolument effrayant. On en parle donc ce soir avec nos invités. Patrick Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur d'un livre formidable que j'ai découvert en préparant cette émission, La loi des pères, aux éditions du Rocher. C'est une enquête choc sur l'aveuglement de la justice et de la société face à l'inceste et à la pédophilie. On en parlera évidemment avec vous jusqu'à 20h. Bonsoir Patricia Chalon.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, présidente de l'association Enfance Majuscule, qui travaille évidemment sur ce sujet de la protection de l'enfance. On parlera de tout ça avec vous. Et puis on sera également avec Sandrine. Sandrine qui nous apportera son témoignage et qui a subi des attouchements quand elle était plus jeune. Elle en parle aujourd'hui dans le cadre de la libération de la parole des victimes d'inceste. On l'entendra dans quelques instants. Je voudrais simplement, pour que chacun comprenne bien l'ampleur de ce qui est en train de se passer, vous citer quelques tweets que j'ai relevés ce matin sur les réseaux sociaux. « Mon père me disait que c'était normal de savoir comment le corps de sa fille évoluait. » Un autre tweet. « J'avais 5 ans. En une soirée, ce frère de ma mère a bouleversé ma candeur et assombri le cours du reste de ma vie. En une seconde, j'avais 100 ans. » Un autre encore. « C'était mon grand-père. J'avais 11, 12, 13 ans et aucune idée de la valeur du mot. Consentement. C'était mon père, dit quelqu'un d'autre. J'avais 4 ans la première fois. Il a continué pour 12 longues et douloureuses années. 30 ans après, les souvenirs ont remonté. Ma mère était dans son emprise aussi. » C'est assez terrible parce que même en les lisant, vous voyez, pourtant
c'est
j'ai préparé l'émission, c'est difficile,
difficile.
De mesurer ce qu'on est en train de vivre. Comment vous le percevez, vous, madame Patricia Chalon, ce mouvement qui est en train de naître et de prendre de l'ampleur?
Alors moi, je suis très contente que une nouvelle génération prenne ça en main et se serve des réseaux sociaux pour pouvoir faire éclater un peu un espèce de tsunami sur ce déni qu'est l'inceste depuis tellement longtemps.
Alors, on a du temps ce soir pour en parler, mais c'est vrai que c'est le cœur du sujet, parce que ce que je viens de lire, c'est quelques tweets parmi des milliers hein, sur les réseaux sociaux qui sont tous les plus effarants les uns que les autres. On est vraiment abasourdis par l'ampleur et le nombre de victimes. Il y en a des centaines, des milliers peut-être. Comment explique-t-on que le sujet reste encore profondément tabou dans notre société et minimisé de cette manière-là?
Alors tabou, je ne sais pas, mais en déni, ça c'est sûr, parce que les gens savent autour. L'inceste est quelque chose qui est su dans les familles, bien souvent. qui n'est pas... Et puis les enfants ne peuvent pas parler, ils sont tellement sous emprise. Vous avez lu tout à l'heure un témoignage, papa, il dit que tous les papas font ça. Papa, il me dit que si j'en parle, maman va mourir.
C'est ce que raconte très bien d'ailleurs Camille Kouchner à propos de son beau-père,
absolument,
Olivier Duhamel. L'emprise qu'il avait sur elle, sur son frère, à qui il a fait subir...
Et en plus, un papa, c'est celui qui est censé vous aimer, c'est celui qui est censé vous protéger. Et c'est celui par qui l'horreur arrive. Donc les enfants sont totalement déstabilisés, totalement cassés, et bien souvent, pour pouvoir survivre, ils vont perdre la mémoire.
Oui. Patrick Jean, c'est ce livre de Camille Kouchner qui a provoqué un électrochoc et qui fait qu'aujourd'hui, les gens en parlent et se disent « ça y est, d'autres en parlent, donc je peux en parler aussi ».
Sans doute ça, on ne le saura jamais. Je pense que ce sont des phénomènes d'émergence, c'est-à-dire que ça couve dans la société. Moi, ça fait un an ou deux que je me dis ça va bouger. Moi, j'étais plutôt enthousiaste à l'idée de cette possibilité de changement. Depuis un an ou deux, il y a eu l'affaire Maznev, et puis on voyait dans la presse aussi des petites choses qui apparaissaient et qui donnaient des signaux qui laissaient croire qu'à un certain moment, comme MeToo, la veille du MeToo, on n'aurait jamais pu croire que ça allait exploser comme ça. Je pensais qu'un jour ça allait arriver. Ça y est, c'est là. Cette vague, elle est là.
On va en parler avec vous de l'affaire Maznev, parce que vous en faites un chapitre dans votre livre des années 70, c'est de cette manière dont on a accepté, même vendu dans l'opinion publique, les bienfaits d'une certaine manière de la pédophilie. Je voudrais simplement qu'on quantifie, si tant est que ce soit possible d'abord, ce phénomène absolument atroce. Un Français sur 10 serait concerné par l'inceste. C'est ça la proportion, Patricia Chalon ?
Alors, c'est l'enquête qui a été faite par
Un Français sur 10, mais c'est énorme.
Alors, d'inceste ou de violence sexuelle ou d'attouchement, on ne sait pas encore exactement. De toute façon, là, on est dans quelque chose où on ne peut... C'est pas quantifiable. On ne sait pas combien d'enfants sont victimes. On ne sait pas depuis combien de temps ça dure pour chacune des victimes, puisque certaines se réveillent au bout de 30 ans, 40 ans. C'est très compliqué.
Vous, dans votre livre, Patrick Jean, vous dites il y a 1 à 2 enfants sur 30 qui sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, principalement dans le cadre familial. Donc c'est quand même une proportion qui est colossale.
Je reste assez prudent en me fiant aux études de l'Institut National des études démographiques. Là, on a vraiment des études d'ampleur avec des scientifiques, des chercheurs, etc., le virage, etc. Ce qu'on sait, sans prendre de risques, c'est que 6% des enfants en France subissent avant la fin de l'adolescence au moins une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol. 6% des enfants, ça fait quasiment 2 enfants dans chaque classe d'école. Donc quand vous voyez une école qui sort à 16h, s'il y a 10 classes, eh bien vous avez 40 enfants qui ont été, qui sont ou qui seront bientôt victimes. Ça veut dire sur l'ensemble de la population scolarisée, 720 000 victimes. Et je suis parmi les plus prudents en termes de chiffres.
Allez-y, madame.
Pardon, c'est effectivement, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas. On a vraiment une intuition. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que quand
on
dit...
Et dans tous ces cas, pardon, mais c'est tellement effarant ce que vous dites que j'ai évidemment plein de questions à vous poser. Mais dans tous ces cas, la famille est au courant ou des membres de la famille sont au courant ou il y a une forme d'inceste où l'entourage n'est pas du tout au courant. Parce que c'est le point de convergence entre toutes ces affaires, les connues, les moins connues, ce que vous racontez dans votre livre, Patrick Jean, c'est le silence, le côté tabou, le fait que dans les familles, vous avez commencé par me dire ça d'ailleurs, on le sait mais on n'en parle pas.
Dans la plupart des cas, il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui sait. Et même quand la personne ne sait pas, bien souvent, je ne veux pas dédouaner toutes les mères, parce qu'on sait que 98%, dans 98% des cas, ce sont des hommes qui sont des prédateurs. Mais bien souvent, quand les enfants viennent en parler à leur mère, elles refusent d'entendre. Quand les enfants viennent en parler à l'entourage, ils refusent d'entendre.
Bien, et on se retrouve dans quelques secondes, on continue d'en parler, on sera avec Sandrine qui va nous livrer justement son témoignage de victime. On leur remercie énormément. À tout de suite, 19h27.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, ce soir dans le débat du Club des Idées, on parle donc de ce mouvement inédit, nécessaire, je le disais tout à l'heure, autour de la libération de la parole concernant les victimes d'inceste. Après l'affaire Olivier Duhamel, on assiste, c'est vrai, depuis quelques jours à un déferlement de témoignages sur les réseaux sociaux sous le hashtag MeToo Inceste, permettant à des milliers de victimes de témoigner. On est justement en ligne avec Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Julien.
Bonsoir madame. Quel âge avez-vous ?
Je vais avoir 54 ans à la fin du mois.
Et vous faites partie de ces nombreux Français, Françaises, qui ont témoigné sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.
Oui, oui, j'ai effectivement eu cet élan hier soir. C'est vrai que j'avais vu l'émission La Grande Librairie.
Oui.
Et le témoignage
de Camille Kouchner, oui.
De Camille Kouchner a été pour moi un déclencheur, comme l'avait été antérieurement le consentement.
Oui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi vous vous êtes dit c'est le moment de raconter, c'est le moment de parler?
Parce qu'il faut mettre des mots précis. Il faut dire ce qui a été fait. Parce qu'à 10 ans, je ne l'ai pas dit à ma mère tel que ça s'est passé.
Oui.
Et si je l'avais dit tel que ça s'est passé, ça se serait arrêté. Alors que comme mon beau-père m'avait dit « Tu ne dis rien à ta mère parce qu'elle va être triste. » Et elle va être triste, et je le savais qu'elle était triste, puisque ma petite sœur était décédée peu de temps avant, à l'âge de 14 mois. Donc ça a été un bouleversement terrible. Et il a joué là-dessus. Et à l'époque, j'ai pas osé. J'ai rien dit. Rien dit pendant plusieurs années.
Donc c'est votre beau-père qui vous a abusé à partir de 10 ans, c'est cela?
C'est cela. Et je tiens à l'antenne à dire ce qu'il m'a dit. Parce qu'il faut le dire. Il se mettait nu. Il se baignait. Il prenait un bain. Il me demandait de le laver. Je ne voulais pas spécialement. Il me dit, si, tu peux, tu as le droit de faire ça. Et le plus terrible, et le consentement là, c'est quelque chose de très important. C'est qu'il a voulu me pénétrer. Mais j'étais trop petite, me disait-il. Donc il l'a mise dans ma bouche. Et j'ai été comme un pantin. Je ne me suis pas débattue. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Et pourquoi? Parce que j'étais sidérée. Et j'ai tout enfoui. Il n'a fait qu'une fois cet acte. Mais après, il a eu des comportements répétés jusqu'à l'âge de ma puberté, jusqu'à l'âge de 12 ans.
Oui.
Et il venait pratiquement toutes les nuits au pied de mon lit pour me, alors ce qu'on dit, caresser. Voilà, c'est ça qu'il a fait pendant 2 ans.
Et vous ne l'avez, donc, vous ne l'avez jamais avoué à votre mère?
Je l'ai avoué à ma mère, mais bien tard. Des années. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il s'appelait Jacques, il oui. m'embête. Qu'est-ce qu'il te fait? Il m'embête, mais j'osais pas dire. Et pourquoi j'osais pas le dire? Parce que j'avais honte. Et j'avais honte même adulte. Je ne l'ai dit qu'à des psys. Parce que je peux vous dire que ça, c'est, je sais pas si on y viendra, mais ça fait des sacrés dégâts.
Et votre maman, elle a compris quand vous lui avez dit ça?
Je pense que non. Elle est malheureusement décédée à l'âge de 45 ans dans un accident de voiture. Donc je n'ai jamais pu lui dire avec les mots que je vous dis ce soir et que j'ai mis sur Twitter. Parce que si je lui avais dit plus tôt, ça aurait été totalement différent. Mais là, elle n'a pas cherché à me questionner, ouais. Elle n'a pas cherché à savoir.
Est-ce que vous en avez parlé
elle
déjà?
Elle ne voulait peut-être pas voir.
Est-ce que vous en avez parlé déjà à vos compagnons, mari, à vos amis, aux gens qui vous entourent et qui vous aiment?
Oui, j'en ai parlé. Mais pas avec ces mots aussi crus. Mais ces mots aussi crus, je n'ai pu les dire à mes proches que beaucoup plus tardivement, après un travail sur moi, après de psychothérapie. Parce que, en fait, en moi est restée la petite fille de 10 ans, avec ouais. cette impossibilité de parler. De nommer les choses par honte. Et en fait, grâce au consentement, grâce à l'émission de La Grande Librairie et grâce aux messages multiples qu'il y a partout, la honte doit changer de camp et je n'ai pas à avoir honte de ce que j'ai subi. C'est lui qui doit avoir honte de ce qu'il m'a fait.
Vous avez raison, Sandrine. Vous restez avec nous, évidemment. Patricia Chalon, peut-être une réaction sur ce témoignage oui. évidemment très fort et sur cette difficulté aussi à en parler, à se faire entendre, à mettre des mots sur ce qu'on a subi.
Alors, déjà, on parlait tout à l'heure du phénomène d'emprise. Hein. Là, il est tout à fait bien éclairé. Hein. Si tu dis quoi que ce soit, ta maman va être très triste et elle venait de perdre un bébé. Donc, bien évidemment, cette petite fille a gardé le secret. Elle parlait du consentement. Dans notre pays, il n'y a pas d'âge, de seuil où on se dit « tiens, cet enfant n'est pas consentant a priori ». On demande depuis des années à ce qu'un seuil d'âge soit instauré pour dire que un enfant de moins, nous on demande 15 ans. 15 ans, c'est vraiment le minimum pour qu'un enfant soit considéré comme non consentant. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné son consentement à ce qui lui arrive là dans la baignoire. Il n'a pas donné son consentement pour être violé par son père tous les soirs.
Bien sûr, bien sûr. Et on parlera de cette évolution du consentement. Patrick Jean, réaction aussi à ce témoignage évidemment de Sandrine qui nous interpelle et nous bouleverse ici dans le studio d'Europe Soir. Et peut-être une question aussi sur les milieux sociaux qui sont touchés par l'inceste. Parce que c'est vrai que on dit beaucoup de choses là-dessus. La vérité, c'est que tous les milieux sociaux sont concernés.
Alors c'est un phénomène parfaitement transversal. Donc tous les milieux, toutes les classes sociales sont touchées exactement de la même manière. Politiquement, on a beaucoup dit qu'il y avait eu des mouvements à gauche, l'extrême gauche dans les années 70, etc. En réalité, ça traverse tout le champ politique de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est vraiment un phénomène qui s'inscrit dans la structure culturelle de toutes les sociétés. C'est un droit archaïque des hommes à posséder les corps des femmes et des enfants. Traditionnellement, les hommes possèdent les corps des femmes et des enfants. Au XIXe siècle encore, Napoléon Bonaparte écrit « Les femmes et les enfants appartiennent aux hommes » comme les arbres et les fruits appartiennent aux jardiniers. Et c'est cette propriété-là du corps des femmes et des enfants. Rappelez-vous que le viol conjugal n'existe que depuis 1992 en France.
La qualification du crime...
Avant ça, c'est pas un viol. Au regard de la loi, c'est pas un viol. C'est un homme qui fait usage du corps de sa femme qui lui appartient. Il en est propriétaire. Eh bien, les agressions sexuelles d'enfants, que ce soit dans le cadre familial, c'est majoritaire ou pas, c'est l'actualisation de ce droit. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Et c'est pour ça que c'est un phénomène aussi massif, parce qu'il s'inscrit dans la culture. Et puis évidemment, sur le plan psychologique, chaque fois, chaque cas est différent. Mais structurellement, c'est notre culture qu'il faut revoir.
Sandrine, vous parliez de la difficulté, et on comprend aisément, de la reconstruction. Vous en êtes où, vous, sur la manière dont vous avez fait cette thérapie, accompagnée, si j'en crois votre histoire, par un psychothérapeute?
Alors là, ce que je peux dire ce soir, c'est que si je peux témoigner comme ça, c'est que je suis tirée d'affaire. Donc, heureusement, on peut s'en sortir. Mais à la naissance de mon deuxième enfant, en fait, j'ai fait ce que les spécialistes connaissent, c'est une psychose perpuérale. C'est-à-dire, c'est des hallucinations très fortes. Je peux vous en décrire une qui sera très parlante a posteriori. Je voyais mon beau-père traverser les murs avec un couteau pour poignarder mon nouveau-né. Donc je peux vous dire que c'est quand même assez fort. Et quand vous dites ça à votre mari et que ça se répète, ben vous vous retrouvez interné d'office en psychiatrie. Ça pendant 6 semaines quand même, hein, avec un isolement pendant 10 jours, en sachant pas si je vais revenir sur Terre, pardonnez-moi l'expression.
Parce qu'on vous prenait pour une folle, c'est ça ?
Ah ben c'est pas qu'on me prenait pour une folle, j'étais folle. Une psychose perpurale, c'est une psychose, donc c'est un moment de folie, mais très très puissant, comme si on avait fumé du LSD et qu'on ait un bad trip monumental. Et donc on se retrouve en psychiatrie parce qu'on est folle. Après on revient sur Terre parce que c'est une psychose déclenchée par, si vous voulez, une montée d'hormones au moment de... et une baisse d'hormones entre la grossesse et l'accouchement. Et là, on peut être soigné et on revient. Il y en a à peu près 2000 par an, hein, des psychoses. Toutes sont palliées, je pense, à ce genre de phénomène, mais ça peut être un phénomène déclencheur.
Et comment vous allez aujourd'hui, Sandrine ?
Très bien, mais quand même après plus de 20 ans de psychothérapie et d'analyse, hein. C'est-à-dire suivi par un psychiatre, parce que quand on est dans cet état-là et qu'on est soigné 6 semaines en hôpital... Je suis revenue chez moi, ça n'allait pas, et j'ai enchaîné derrière une dépression avec une hospitalisation de 3 semaines pour dépression. Alors une dépression, les gens connaissent un peu plus, sont plus familiers en quoi ça consiste. Hein. Mais c'est pas un petit vague à l'âme. Vous voyez, quand vous êtes enfermé pendant 3 semaines en psychiatrie pour dépression, c'est pas un vague à l'âme. Donc, s'en est suivi pour revoir mon enfant, un accompagnement par un pédopsychiatre, pas un psychiatre, et ça pendant des années. Et ensuite, quand ça allait mieux, une analyse. Et c'est à l'issue de l'analyse que tout ça est ressorti. Parce que moi, à cette époque-là, je ne savais pas d'où ça venait. Vous voyez, c'est la parole, c'est le travail qui est fait sur soi qui permet de s'en sortir.
On va évidemment continuer à parler de la reconstruction et de la manière de libérer cette parole. Merci infiniment Sandrine, vous restez encore quelques instants avec nous. On marque une pause, quelques secondes, et on se retrouve avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on poursuit le débat du Club des Idées. Et ce soir, vous l'avez compris, on parle du mouvement est nécessaire, hein, un mouvement inédit autour de la libération de la parole concernant les victimes d'inceste et de ce hashtag qui fait beaucoup parler en ce moment, MeToo Inceste. On a entendu le témoignage très très fort de Sandrine qui est toujours en ligne avec nous. J'ai une question à vous poser d'ailleurs, Patricia Chalon. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, présidente de l'association Enfance Majuscule. Sandrine nous dit: je ne réalisais pas ce qui m'arrivait dans ma phase aussi de dépression et de reconstruction par la suite. Ça veut dire qu'on enfouit ce qui nous est arrivé quand on a été victime d'agressions sexuelles comme cela, si jeune, à 10, 12 ans, 7 ans, parfois en dessous. On l'oublie.
Beaucoup de victimes oublient. Au sens où elles ont,
le traumatisme est là,
et c'est la seule manière de survivre, c'est-à-dire de mettre ça dans un espèce de coin, mais dans ce coin qui va ressurgir à un moment ou à un autre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les victimes d'inceste ont souvent très peur de répéter eux-mêmes, d'être aussi des prédateurs. Et je veux vraiment
d'être
leur dire
des agresseurs.
Et j'ai vraiment envie de leur dire que ça n'est pas parce qu'on a été victime qu'on deviendra agresseur. J'ai aussi envie de leur dire qu'on peut s'en sortir, que bien sûr il y a une cicatrice, elle est là et elle sera là toujours. Mais une cicatrice, on peut la regarder, on peut se dire voilà, j'ai été ceci, il m'est arrivé cela, mais elle n'est plus violente tous les jours. Elle ne fait plus autant de douleur tous les jours. Pour ça, il faut se faire aider.
Vous êtes favorable, vous, Patrick Jean, auteur de cette enquête formidable qui s'appelle « La loi des pères » aux éditions du Rocher, à la fin de la prescription pour les délits et crimes comme l'inceste. C'est le débat qui est ressorti après l'affaire Olivier Duhamel.
Hein.
Aujourd'hui, la prescription est de 30 ans.
Oui. Vous savez, j'ai envie de vous dire, c'est une question importante sur laquelle moi, j'ai pas à m'exprimer, je me sens pas très légitime. En revanche, si la justice faisait déjà son travail maintenant, 70% des plaintes sont classées.
Pourquoi ?
Parce que la justice n'a pas les moyens, vous vous rendez compte ? Actuellement, la population scolarisée, je vous disais, 6%, ça fait 720 000 victimes. Prenez les victimes qui ont entre 18 et 38 ans, puisque leur dossier peut encore être instruit, ça fait près d'un 1 500 000 victimes qui pourraient demain les déposer plainte et dont les dossiers devraient être instruits. La justice française est en lambeaux, elle n'a pas les moyens d'encaisser 10% de cela. Donc que fait-elle ? Elle classe sans suite. Et ensuite, quand c'est classé sans suite...
C'est un manque de moyens ou c'est
un manque
de preuves, de témoignages ?
Et de volonté et de problèmes culturels. Parce qu'évidemment, cette culture patriarcale, cette puissance des pères, pères au sens de pouvoir politique, il traverse évidemment tout le corps social, y compris la justice. Et comment le voit-on ? C'est que la justice, très souvent, reconnaît des théories pro-pédophiles, comme le syndrome d'aliénation parentale, qui consiste à dire, on le dit depuis le 19e siècle, les enfants mentent, il ne faut pas les écouter. D'ailleurs, quand ils mentent, c'est leur mère qui leur a fait inventer toutes sortes d'agressions sexuelles qui n'ont pas lieu pour se défaire d'un mari gênant, etc. Et la justice reconnaît ces faits avec pour conséquence de séparer les enfants des mères qui dénoncent les agressions sexuelles pour les confier au père que l'enfant désigne comme son agresseur. Vous en avez des milliers et des milliers.
Alors,
en France actuellement.
Il y a aussi, vous tendez la perche pour en parler quelques instants, il y a aussi un héritage culturel. Vous parlez beaucoup dans votre livre, vous y consacrez un chapitre aux années 70. Vous intitulez ce chapitre une période pro-pédophile. Et on avait découvert tout un tas de choses au moment de l'affaire Maznev. Je dis découvert parce que moi qui suis né après, vous voyez, j'ai découvert cette période-là. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Vous écrivez dans votre livre, par exemple, vous rappelez la prise de parole de la psychanalyste Françoise Dolto, qui a donné crédit à la théorie expliquant que les petites filles victimes d'inceste sont toujours consentantes. Voilà, vous citez tout un tas d'exemples. On tombe de l'armoire, franchement, quand on lit cette partie-là du livre. Et ça rappelle cet extrait qu'on avait rediffusé à l'occasion de l'affaire Maznev. On va se l'écouter une nouvelle fois parce que c'est important. Bernard Pivot, qui reçoit l'écrivain sur son plateau en 90.
S'il y a un vrai, véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand même Gabriel Matzeff. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus.
Je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas ? Et donc, je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils.
C'est Barjot ce qu'on entend. C'était il y a 30 ans, en 1990, sur le plateau d'une grande émission littéraire, apostrophe, Bernard Pivot, qui reçoit donc Gabriel Mazner. Alors, et ça ne choque personne.
Nos sociétés vacillent en permanence, elles oscillent plus précisément, entre le déni et la légitimation. Le déni, on a ça dès que la loi commence à réprimer les violences sexuelles contre les enfants au milieu du 19e siècle, avec les accusations hétérogénitales. On met toujours des noms très scientifiques sur les théories fumeuses, qui consistent à dire les enfants mentent, il ne faut pas les écouter, le déni. Oui. Ça revient dans les années 1980 avec des théories américaines, syndrome d'aliénation parentale, syndrome de Médée, qui consiste à dire de la même manière les enfants mentent,
il ne
faut pas les écouter.
Loin. C'était devenu presque de la pop culture.
Et là, c'est le contraire.
Hamilton,
L'autre bout de l'oscillation qui est la légitimation. Oui. On passe de l'un à l'autre en permanence. Et la légitimation, c'est pas qu'en France, c'est pas que Mazneff. C'est dans tout le monde occidental, il y avait des associations de libération des pédophiles. Ils s'appelaient eux-mêmes comme ça. Oui. Ils avaient des magazines. Il y a eu 4 magazines en France jusqu'au début des années 90 avec des photos d'enfants nus avec en sous-titre Bon appétit. Ça, c'est effectivement, c'est une période. Mais qui continue, parce que les gens qui vivaient à cette époque-là, ils sont toujours là. Je veux dire, les gens que vous retrouvez sur Internet par dizaines, par centaines, par milliers qui téléchargent des vidéos pédopornographiques avec des viols de bébés, des viols d'enfants. Ben je veux dire, cette culture-là, elle est toujours là. Elle ne peut plus s'exprimer de la même manière dans les médias, sauf quand Finkielkraut nous dit « Ah, mais quand même, après tout, est-ce que la victime n'était pas quand même consentante ?» C'est l'héritage de ça.
Oui.
On est toujours entre déni et légitimation,
c'est
et actuellement, on est dans les deux.
C'est scandaleux, il se fait virer et il dit comment on me censure. Voilà. ce qui est d'autant plus scandaleux. Patricia Chalon.
Ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est qu'on trouve ça dans tous les milieux politiques. On va avoir juste des légitimations. C'est-à-dire, on va prendre quelqu'un d'extrême droite, par exemple. Il va dire, mais cet enfant m'appartient. Il est à moi. Je fais ce que je veux avec. C'est mon bien. Et puis, on va aller à l'extrême gauche et on va trouver des gens, mais le corps des enfants... il faut qu'il puisse s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez à réprimer comme ça la sexualité infantile dont on sait qu'elle ne demande qu'à s'épanouir. Donc, et là-dessus, on a des échelles sur tous les milieux, dans toutes les catégories, et ça, on n'en est pas sorti.
Alors, je rappelle, pour terminer, la réponse pénale, car c'est important de le dire, un viol incestueux est puni de 20 ans de réclusion criminelle au maximum, mais vous le disiez les uns et les autres, dans 80% des cas, d'après l'association Face à l'inceste, les faits sont jugés comme des délits et non des crimes, donc les auteurs ne risquent, dans les faits, que 10 ans d'emprisonnement.
Et quand c'est le cas, ils sont très peu punis. La plupart d'entre eux prennent du sursis. Aujourd'hui, en France, c'est beaucoup plus risqué de voler une mobylette que de violer son propre enfant. En termes pénal,
donc
c'est très clairement
plus renforcer la législation.
Il faut que l'inceste soit un crime en soi, que ça ne soit pas simplement quelque chose qui vient se rajouter comme ça sur une agression sexuelle ou sur un viol. C'est un crime. Et d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait ce seuil pour les agressions sexuelles. Un enfant de moins de 15 ans n'a pas la possibilité de donner son accord ou de son consentement. Et un enfant de moins de 18 ans, en cas d'inceste, puisqu'il est mineur et là, après, il est majeur, on ne peut plus intervenir, mais il est mineur et un parent n'a pas à s'occuper du corps d'un enfant du sien ou de celui d'un beau-père ou d'un frère ou d'une sœur.
Merci infiniment d'avoir participé à cet échange et c'est un combat nécessaire. On continuera évidemment d'en parler pour la libération de la parole. Merci infiniment à Sandrine aussi qui nous a apporté son témoignage très fort et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite Sandrine. Merci à vous.
Europe 1. Julien Bugier.
19h50, dans quelques secondes, tout autre chose, les archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va revenir sur l'histoire du génocide arménien, et plus précisément sur le jour où le Parlement français l'a reconnu ainsi. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des idées d'Europe Soir et les archives, comme chaque soir à cette heure-ci, quand le passé éclaire l'actu, ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on est le 18 janvier 2001, quand la France reconnaît le génocide arménien, génocide toujours pas reconnu d'ailleurs par la Turquie, qui a fait 1 500 000 morts. Et la France reconnaît donc ce génocide qui est désormais inscrit dans la loi.
La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Voilà l'article unique de la proposition de loi votée à l'unanimité ce 18 janvier 2001. Une seule phrase, plus symbolique que juridique, qui résonne alors dans l'hémicycle. Ce jour-là, c'est le député centriste François Rochebloine, ardent militant de la cause arménienne, qui s'exprime. Il conclut son discours en arménien.
Je persiste à croire qu'il vaut mieux perdre un, voire démarcher, que de perdre son homme.
Ayo, Fransan, Betke, Anthony, Aygagan, Tsera, Banyutun. Oui, la France doit reconnaître publiquement le génocide arménien de 1915.
Ce vote, c'est un moment historique pour les 500 000 Français d'origine arménienne. Certains d'entre eux font même le déplacement devant les portes du Palais Bourbon pour suivre le vote et remercier la France, leur pays d'accueil, de reconnaître le génocide. Un besoin de reconnaissance pour ses enfants et petits-enfants de rescapés. Le chanteur Charles Aznavour, lui-même enfant de descendant de survivants du massacre, salue ce jour-là le vote du Parlement.
Sans aucun triomphalisme surtout. C'était dans une chose qui devait se faire un jour ou l'autre et qui continuera à se faire, je pense, dans tous les pays. Et par la suite, le plus important, c'est que le gouvernement turc, un jour, prenne la décision elle-même de reconnaître.
Oui, parce qu'Hélène, rappelons-le, je le disais tout à l'heure, la Turquie continue aujourd'hui encore de nier ce génocide arménien.
Oui, la Turquie refuse obstinément de parler de génocide, pourtant ordonné en 1915 par le gouvernement des jeunes turcs. Elle évoque autant de morts côté arménien que turc, une guerre civile doublée d'une famine. Alors forcément, le processus législatif pour la reconnaissance du génocide en France gêne la Turquie. C'est ce qu'explique dès 1998, soit 2 ans et demi avant le vote, Patrick Devedjian, alors secrétaire national du RPR.
On n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent parce que la Turquie a déployé une activité diplomatique intense pour essayer d'empêcher le gouvernement français en particulier de reconnaître le génocide arménien et n'hésitant pas d'ailleurs à faire du chantage économique.
Au lendemain du vote, les répercussions de la Turquie ne se font pas attendre. Ankara rappelle son ambassadeur à Paris, multiplie les appels au blocage. Le journal turc Hurriyet titre même « Adieu France ».
Et la France devient ce jour-là le premier grand pays de l'Union européenne à donc franchir le cap.
Oui, au total, aujourd'hui, un peu plus d'une vingtaine de pays ont reconnu le génocide arménien. C'est l'Uruguay qui a le premier voté une loi en 1965. Il y a Chypre, ensuite la Grèce, l'Italie, l'Argentine. Le Congrès américain le reconnaîtra en 2019, mais c'est surtout en 2015 que symboliquement, lors du centenaire du génocide arménien, le Bundestag en Allemagne vote une résolution sur la commémoration du génocide. Cette année-là, le pape va même prononcer le mot génocide en la basilique Saint-Pierre de Rome et le Parlement européen vote une résolution pour inciter la Turquie à reconnaître le génocide arménien. 2015, année du centenaire, cette année-là, des dizaines de milliers d'Arméniens défilent, donc très nombreux à Paris. Parmi eux, Isabelle, elle confie le traumatisme qu'elle vit encore aujourd'hui.
Quand vous perdez quelqu'un de votre famille, imaginez que non seulement vous l'enterrez jamais, et par ailleurs, vous avez le meurtrier qui passe son temps à redonner des coups de couteau dedans. Accessoirement en disant, mais non, vous délirez, non, on l'a pas tué, voilà, comment vous voulez passer à autre chose? Et peu importe que ce soit 100 ans après, on peut pas, c'est injuste.
Des Arméniens, on l'entend, qui espèrent un jour aussi voir une loi qui pénalise la négation du génocide arménien, à l'image de la loi Guesso qui pénalise la négation de la Shoah. Une loi a été votée en ce sens en France en 2012, mais censurée par le Conseil constitutionnel.
Merci Hélène pour ces archives. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans quelques secondes, le rappel de l'info. Émilie Mazoyer ensuite pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Comment ça va?
Mais alors, c'est une bonne question. En ce lundi, paraît-il, le plus déprimant de l'année, le Blue Monday.
Ah bah je te confirme. Je me disais voilà. Pourquoi depuis ce matin, j'avais pas le moral dans les...
C'est le Blue Monday, c'est le troisième lundi de janvier. Puis entre, oui, Jean-Pierre Bacri et Phil Spector, des niveaux très différents. Hein, mais ça nous fait plein d'hommages à faire ce soir. Et puis on se remontera le moral avec nos invités. C'est un tout jeune groupe qui s'appelle Rosa Way. Ils sont français, je le précise, parce que ça s'entend pas. Steph, il est batteur, et Rachel qui chante, elle joue de la flûte traversière. Écoute. Et ces petits solos de flûte traversière, c'est un petit côté un peu hippie 70, moi j'aime beaucoup.
J'attends la harpe à la fin du morceau.
C'est possible, à tout moment. Rosa Way, ils sont pleins de surprises et donc ils sont nos invités dans musique.
Merci Émilie, on te retrouve dans quelques
Julien.
Secondes. Merci de votre fidélité, on se retrouve même lieu, même heure. D'ici, écoutez, le monde change et comme d'habitude sur Europe 1, demain 18h.